c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Simon. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler d'un édito publié en Belgique, d'une revue qui s'appelle Alternative Sud. Nous allons parler aussi de ce qu'on appelle transfert de fonds en français et en espagnol on dit remesa de fondos. Nous allons aussi découvrir en quelque sorte un philosophe latino-américain dont vous allez découvrir avec nous. Je ne vous livrerai pas encore son nom. Et aussi un musicien péruvien et là aussi ciné. Une première sur RLP. Et si le temps nous permet, nous allons aussi parler d'une Miss nicaraguayenne. C'est unique aussi. Voilà. Bon, tout ça en fonction du temps. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de cet édito, un extrait d'un édito paru dans la revue Alternative Sud en Belgique, Bruxelles.
Oui. Aborder l'Amérique latine comme un seul ensemble, au risque de négliger les singularités nationales, relève de la gageure. Comment confondre 7 millions de Nicaraguayens sous l'emprise d'un révolutionnaire, qui s'appelle M. Daniel Ortega, qui a tourné kazakh, et 220 millions de Brésiliens qui tanguent entre bolsonarisme et lulisme? Comment amalgamer...
C'est-à-dire... Bolsonarisme, c'est l'ancien Bolsonaro, président d'extrême droite, et Lula,
le nouveau le
brésilien, plutôt de gauche.
Plutôt de gauche. Comment amalgamer l'hypermodernité chilienne et le chaos haïtien, la quatrième transformation mexicaine et les progressismes du cône sud? Pour autant, plusieurs grandes tendances communes, à l'œuvre depuis le début du XXIe siècle, traversent le continent de part en part. Du boom des matières premières et des euphories extractivistes et exportatrices aux crises économiques et politiques actuelles. De la vague de pouvoir de gauche à la tête des États, aux alternatives populistes, aux plus classiques en cours. Aux quatre coins de l'Amérique latine, sur fond de bras de fer hégémoniques, Chine, États-Unis, d'instabilité démocratique et de remilitarisation rampante, des manifestations revendiquent de meilleurs emplois ou pensions, des mouvements indigènes s'essayent aux autonomies de droit ou de fait, des mobilisations féministes ou décoloniales tentent de gagner en reconnaissance et en égalité, des organisations écologiques ou paysannes défendent leur territoire, tandis que de puissantes dynamiques réactionnaires et populaires, c'est l'autre face des réalités protestataires, s'opposent au changement et prônent l'ordre et la sécurité au pays des inégalités.
Oui, Il faut parler des inégalités parce que c'est vrai que dans notre continent latino-américain, il y a beaucoup d'inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Mais il y a encore, oui.
Il n'est impossible, au vu des multiples échéances électorales qui s'annoncent, que la fragile vague rose qui a culminé en 2022 fasse place à une marée brune ou de nouvelles alternatives plus ou moins populistes composées de clones du brésilien Bolsonaro ou de l'autoritaire et populaire président du Salvador, Nayib Bukele, autoproclamé dictateur le plus cool du monde. Rien à l'horizon, en tout cas, qui permette d'entrevoir la sortie du marasme économique en cours et la diminution significative de la pauvreté, des inégalités, des violences et du saccage de la biodiversité.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler de transfert de fonds, c'est-à-dire en espagnol on dit remessa, pour l'envoi d'argent qui font les migrants une fois qu'ils se sont installés dans des pays dits riches, par exemple les États-Unis.
Oui, c'est un article qui est paru dans la revue Espace Latinos, écrit par Maurice Nahori. Les crises migratoires créent des tensions nationales et internationales qui se succèdent et se déplacent d'un continent à l'autre. Du nord au sud, l'Amérique latine et les Caraïbes donnent à lire cette réalité dans toutes ses dimensions. Quand la question est abordée sous l'angle économique, on fait de la comptabilité, on trace des courbes, on évoque la misère du monde, comme s'il s'agissait d'une catégorie normale des horreurs de la nature. On parle rarement du courage des hommes et des femmes qui émigrent et de leur contribution à la réduction de la famine et de la pauvreté. Le phénomène est ancien, continu et en expansion. Les données disponibles sont publiques. Selon la Banque interaméricaine de développement, la BID, las remesas, comme disait Eduardo, qui veut dire transfert de fonds, reçus par les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ont atteint 142 milliards de dollars en 2022. Les migrants pauvres résidant dans des pays développés sont les premiers pourvoyeurs directs de fonds pour de nombreux pays d'Amérique latine. Ils peuvent atteindre des pourcentages très élevés de la richesse nationale, 25% au Guatemala. Ils sauvent du naufrage des familles encore plus pauvres restées dans leur pays. En effectuant les travaux les plus pénibles et les moins rémunérés dans les sociétés riches où ils émigrent, les migrants contribuent aussi à l'activité économique et sociale des pays dits opulents. Les migrants qui envoient de l'argent à leurs familles n'ont pas les compétences économiques et politiques de leurs dirigeants, ni les dilemmes des pays donateurs. Ils aident leurs familles au fond de l'abîme. Les pauvres aident toujours plus les très pauvres. En regardant ce désastre institué, on comprend mieux pourquoi les tensions géopolitiques entre les pays du Nord et du Sud sa vise et pourquoi la peur en Occident est de retour avec son cortège d'ennemis à débusquer, à inventer et à démoniser.
Merci Béatrix. Donc, vous avez bien compris que les migrants envoient de l'argent à leur famille une fois qu'ils se sont installés dans les pays développés, pour ne pas dire les pays riches. Mais nous allons changer complètement de sujet, n'est-ce pas, Béatrice? On va parler d'un philosophe latino-américain.
Oui, qui s'appelle Enrique Dussel. Figure méconnue du public français, est mort à Mexico en novembre dernier à l'âge de 88 ans. Réputé dans le monde entier pour être à l'origine des études décoloniales, il est aussi l'un des fondateurs du plus important courant philosophique d'Amérique latine, la philosophie de la libération. Le tournant décolonial venu d'Amérique latine désigne un changement de paradigme dans les sciences sociales et les mouvements sociaux. Dans cette constellation de théories, Enrique Dussel occupe une place éminente. C'est lui qui a donné à ce mouvement quelques-unes des principales hypothèses. Fils d'immigrés allemands et italiens, né le 24 décembre 1934 en Argentine, Enrique Dussel grandit dans un village de la Pampa, province éduquée avec les valeurs du catholicisme social. Après un doctorat de philosophie obtenu à Madrid, il séjourne en Israël de 1959 à 1961. Prenant appui sur l'Exode et faisant fond sur sa cohabitation avec des ouvriers palestiniens à Nazareth, Dussel se fixe pour objectif de penser la libération des opprimés. Après cette expérience israélienne vient l'expérience française. De 1961 à 1965, Dussel vit dans le quartier latin, est employé à la bibliothèque universitaire de la Sorbonne, devient le disciple du philosophe Paul Ricoeur, obtient un diplôme en sciences des religions. Philosophe, théologien, il devient aussi historien de l'Église en soutenant un doctorat d'histoire en Sorbonne sur l'épiscopat latino-américain. Après sa formation en Europe, Enrique Dussel retourne en Argentine et devient l'un des intellectuels majeurs. Suite à la lecture de « Totalité et infini » d'Emmanuel Lévinas, sa pensée est bouleversée. La philosophie de la libération est née. Sous sa plume, elle consiste à affirmer l'extériorité de l'autre opprimé, l'Indien, la femme, le pauvre, par rapport à la totalité des systèmes racistes, sexistes, néolibéraux, fondamentalistes et ethnocentrés. Dussel développe sa pensée au milieu des violences politiques qui agitent l'Argentine. Un attentat à la bombe détruit sa maison, sous Perón. Il est renvoyé de l'université où il enseigne et décide de s'exiler au Mexique en 1975.
Oui, il faut ajouter éventuellement que c'était un intellectuel toujours engagé. Il était depuis 20 ans la tête pensante du gouvernement du Mexique. Et le président donc a rendu un hommage émouvant au lendemain de sa mort. Et nous pouvons dire aussi que c'était un théoricien de la démocratie participative, des luttes sociales, écologistes et antiracistes, comme tu viens de signaler aussi, Béatrix. Critique de l'ethnocentrisme à partir des philosophies européennes, critique de l'extrême droite israélienne à partir de Levinas, le philosophe, et défenseur de la cause palestinienne sans jamais remettre en question les droits d'Israël à l'existence, il pourrait nous ouvrir la voie d'une libération à venir qu'on peine encore à imaginer. Donc nous allons continuer à découvrir ce philosophe latino-américain né en Argentine, Enrique Dussel, qui a fait aussi une partie de son parcours en France. Mais nous allons écouter un peu de la musique de l'Argentine. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'autre Amérique, n'oublions pas, c'est l'Amérique latine, n'est-ce pas, Béatrix? Mais nous allons parler d'un musicien qui s'appelle Agustín Barrios, un Péruvien que nous avons découvert.
Paraguayen, pas péruvien.
Tout à fait, paraguayen.
Oui. Qui est né en 1884 et décédé en 1944. Donc cet article est paru dans Le Monde. Le guitariste toulousain Thibaut Garcia consacre un album rare et précieux à Agustín Barrios, ignoré en dehors de l'Amérique latine et des pratiquants de l'instrument. D'après Thibaut Garcia, au Paraguay, Barrios figure sur les billets de 50 000 guaranis. Pardon. À l'exception des guitaristes qui ont joué au moins une pièce de lui, Barrios est méconnu en France alors que sa musique est très abordable. Il vivait pratiquement toujours chez d'autres qui lui donnaient le gîte. Sans le sou, Barrios donnait aux pauvres le peu d'argent qu'il gagnait. Il avait 25 ans au moment de quitter le Paraguay pour parcourir l'Amérique du Sud, l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, le Venezuela. Barrios était interprète et compositeur à parts égales. Entre 1934 et 1936, pour sa seule tournée dans le Vieux Monde, son agent lui demande de ne pas s'habiller en indien. Il rencontre le compositeur Igor Stravinsky qui lui écrit une lettre lui souhaitant le meilleur pour la nouvelle année. Cela prouve que Barrios n'était pas n'importe qui à l'époque. La musique de Barrios passe sans cesse du romantisme au populaire. Son inspiration vient d'Amérique du Sud, où danse et aspects rythmiques sont très importants. Il ne cherche pas forcément à transformer en quelque chose de savant ce qu'il emprunte aux musiques populaires comme Maxis, une danse brésilienne, ou certains airs venant des cuecas des Andes.
Oui, et si ça vous intéresse, vous pouvez trouver un CD qui s'appelle El Bohemio, édité par Erato. Et nous allons écouter en exclusivité justement compositions de ce compositeur paraguayen Agustín Barrios.
Thank you.
Voilà une des compositions qui s'appelle La cathédrale de ce compositeur musicien paraguayen Agustín Barrios. Et nous allons parler de quelque chose de même amusant sur une Miss nicaraguayenne, n'est-ce pas Béatrix?
Oui. Miss Univers qui gêne le pouvoir de Daniel Ortega. Depuis la victoire le 18 novembre dernier au Salvador de la jeune nicaraguayenne Chenny Palacios au concours international de beauté féminine, l'appareil de propagande du régime de Daniel Ortega est dans l'embarras. D'un côté, le peuple. Les rues se sont spontanément remplies de Nicaraguayens célébrant cette consécration comme une finale de Coupe du monde de football, agitant des drapeaux et chantant l'hymne national, malgré le régime policier empêchant toute manifestation depuis 5 ans et interdisant l'utilisation du drapeau du pays devenu symbole de l'opposition. Ça, c'est nouveau, ça. De l'autre côté, cette photographie de Chenny Palacios en 2018, tenant à la main le drapeau bleu et blanc et participant aux protestations contre Ortega, qui ont provoqué une répression sanglante de la part des autorités. Une traîtresse à la patrie, donc, selon le discours officiel. Les jours précédant le concours, la jeune femme de 23 ans avait été raillée par la propagande officielle. Sur la télévision d'État, des présentateurs avaient moqué ses origines modestes. Elle vendait des beignets dans la rue pour financer ses études universitaires et doutait qu'elle pût obtenir une quelconque place sur le podium de Miss Univers. Le gouvernement avait même émis une interdiction pour la jeune femme de rentrer au pays après le concours. Sa victoire et la liesse populaire qu'elle a provoquée, beaucoup de Nicaraguayens s'identifiant à l'histoire de cette Cendrillon centra-américaine ont désarçonné le pouvoir. C'est l'attitude répressive qui a prévalu. La nouvelle Miss Univers, elle, n'est pas prête de rentrer au Nicaragua. Son contrat stipule qu'elle résidera pendant 1 an à New York. Pourra-t-elle un jour retrouver son pays ?
Oui, c'est compliqué parce que n'oublions pas que Daniel Ortega, c'était un révolutionnaire au Nicaragua, mais après, comme tu l'as bien indiqué, il a tourné casaque, comme on dit. Mais nous allons livrer une information brièvement sur la Colombie et le Venezuela qui font un franc commun du président de gauche, Petro et Maduro.
Oui, cet article est paru dans Alter Infos de Dial, une revue mensuelle en ligne. Colombie-Venezuela, le front commun des présidents de gauche Petro et Maduro. Gustavo Petro, en fonction depuis août 2022, a opéré un virage à 180 degrés vis-à-vis de la politique étrangère de son prédécesseur de droite radicale, Iván Duque. Il a renoué le contact avec le gouvernement du Vénézuélien voisin. Important consensus sur la protection de l'environnement, l'électricité, le gaz, le développement conjoint du pétrole, la lutte contre l'extractivisme illégal et prédateur. Avec le président Gustavo Petro, nous réalisons un excellent travail sur le vaste programme de coopération bilatérale qui progresse sur la base de l'union et de la fraternité.
Voilà, donc nous allons nous arrêter là parce que c'est vrai que le temps passe très vite. Et voilà, s'il te plaît. Thank you. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir et redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos, des informations. Et merci à Simon à la technique. Muchas gracias. Hasta pronto.